Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier Jean-Marie Tarascon pour m'avoir invité à parler d'une technique spectroscopique, donc la résonance paramagnétique électronique, qui est une technique que l'on connaît un peu moins que sa sœur jumelle, qui est la résonance magnétique nucléaire. Les gens connaissent bien la résonance magnétique nucléaire, de par le fait qu'elle est largement utilisée en chimie, mais qu'elle a aussi d'énormes applications dans le domaine médical. Tout le monde connaît l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Eh bien, la RPE, en fait, va s'intéresser aux propriétés des électrons. Donc, comme Jean-Marie l'a mentionné, la RPE, c'est résonance paramagnétique électronique, mais c'est une technique que l'on trouve sous différents acronymes. Vous allez aussi trouver l'acronyme anglo-saxon, qui sera électron spin, résonance. Là, on s'intéresse aux propriétés du spin de l'électron, alors que dans la partie RPE, en Europe, on s'intéresse aux phénomènes physiques, le paramagnétisme. Et aujourd'hui, ce que l'on trouvera un petit peu plus dans la littérature, ce que l'on commence à trouver, c'est le pendant, en fait, de la RMN, et on parle plutôt de EMR, pour Electron Magnetic Resonance. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter la technique assez brièvement et de montrer en fait ces avancées assez spectaculaires qu'il y a eu ces dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RPE est en train un petit peu de rattraper la RMN. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous savez peut-être, mais en RMN, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent, qu'on appelle la polarisation dynamique nucléaire, où en fait on va mettre des agents paramagnétiques, on va les exciter avec des micro-ondes et on va augmenter en fait la sensibilité. Donc il y a en fait une espèce de confluence en fait entre les deux techniques. Alors ce que je vous présenterai aujourd'hui, eh bien c'est des choses relativement assez modernes où maintenant on peut faire de la RPE au niveau impulsionnel comme on le fait en RMN. Alors c'est vrai que ça peut paraître trivial. La RMN impulsionnelle, on la connaît depuis à peu près les années 70. Il aura fallu attendre quasiment la fin des années 90 pour voir la RPE impulsionnelle arriver. Je vous dirai pourquoi. Et puis, beaucoup plus récemment, ce que vous pouvez voir ici, eh bien, c'est au même titre que l'IRM. On sait faire aujourd'hui de l'imagerie par résonance paramagnétique électronique. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire. La RPE, c'est une technique donc, qui a été découverte par Yevgeny Zavoisky, donc, qui était russe, et qui a réalisé une première observation d'un signal RPE en 1945, ici, sur un cristal de chlorure de cuivre. Alors à cette époque-là, on peut voir qu'il travaille, donc c'est une technique magnétique, il travaille à 133 MHz avec des champs relativement assez faibles, 4,76 millitesla. Aujourd'hui, la RPE est une technique qui travaille dans le domaine des micro-ondes, principalement aux alentours de 9 GHz. Alors, très rapidement, en fait, les physiciens que l'on connaît et qui ont développé la RMN, Purcell, Bloch, tout le monde connaît les équations de Bloch, eh bien, ces gens-là ont développé, en fait, directement la RPE. Alors, ce que vous pouvez voir ici, j'ai réussi à me reprocurer ça, c'est le premier spectromètre qui a été construit par Zavoisky. Alors ici, on peut voir, il y a une espèce d'aimant, là, c'est un électro-aimant, il avait une petite source radiofréquente en fait, qui venait créer un champ B1 au sein d'une cavité. Et en fait, l'interaction de ce champ B1 avec le champ statique magnétique, eh bien, crée en fait, tout simplement, une transition d'énergie. Le cuivre, à l'état 2+, est un D9. Il a un spin électronique de 1,5, donc vous le verrez plus tard. Eh bien, on observe une transition d'énergie. Alors, la RPE a longtemps stagné, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 90, eh bien, la RPE, en fait, vous verrez, on enregistrait des spectres de RPE continus. En plus, c'était compliqué, ça ne ressemblait pas du tout aux spectroscopies que l'on connaît, telles que la RMN ou le Raman. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ça servait principalement à la chimie physique du solide pour identifier, bien sûr, réaliser la structure quand on pouvait le faire. Et puis, la première chose, c'est quantifier les radicaux. La RPE peut être extrêmement utile, par exemple, pour aller faire de la dosimétrie. Parce que lorsque vous avez, par exemple, une irradiation qui se produit, eh bien, vous allez créer des défauts dans un matériau, et donc vous pouvez quantifier ce nombre de défauts. La RPE s'est vraiment bien développée avec, bien sûr, la chimie et la biologie parce que, eh bien, on le sait, dans tous les processus qui mettent en jeu des enzymes, eh bien, il y a des changements redox. Et ces changements redox, au niveau des métaux de transition, produisent des espèces qui sont détectables par résonance paramagnétique électronique. Et donc, plus récemment, avec la biologie et la médecine, c'est ce que vous voyez là, eh bien, on est capable aujourd'hui d'aller, par exemple, chez le petit animal, suivre des modifications, par exemple, au niveau de l'oxygénation du cerveau. Là, c'est au niveau du cerveau, mais ça pourrait être très bien au niveau de n'importe quel organe. Donc, aujourd'hui, on commence à voir des techniques un petit peu plus modernes. Alors, juste pour vous placer la RPE, eh bien, la RPE travaille dans les micro-ondes. Alors, on ne va pas faire de la synthèse avec de la RPE parce qu'on va travailler à des puissances qui sont très très faibles, hein, quelques milliwatts, donc il n'y a pas d'échauffement. Et généralement, on verra que la technologie, en fait, permet de retirer la composante dipolaire et on ne garde que la composante magnétique, en fait, des micro-ondes. Donc, en gros, la RPE va travailler aux alentours de la RMN, c'est-à-dire quelques centaines de mégahertz. Et aujourd'hui, on fait de la RPE jusqu'à le domaine des térahertz, c'est-à-dire sur des synchrotrons, on est capable de faire de la RPE au térahertz. Alors, la RPE, bien sûr, ça ne s'intéresse pas à tous les objets. C'est-à-dire qu'autant en RMN, vous allez passer, analyser vos matériaux ou analyser vos solutions, vous êtes basé sur la propriété du spin nucléaire, vous avez partout des protons ou des spins nucléaires non nuls, donc vous pouvez analyser à peu près tous les matériaux. La RPE, il faut que vous ayez des espèces qui possèdent un ou plusieurs électrons non appariés. Alors ça va être le cas de quelles espèces ? En chimie organique, ça va être le cas de ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous avez tous entendu parler des radicaux libres, d'accord ? Si vous cassez une molécule d'eau de façon homolytique, par radiolyse, eh bien, vous allez produire des radicaux OH point. Alors vous allez me dire, bah, c'est intéressant, on peut analyser ça, mais le problème, c'est que ces radicaux-là, ils ont une durée de vie qui est très faible, hein, quelques nanosecondes. Donc, à l'échelle de temps d'une mesure, on ne pourrait pas les observer. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des piégeurs de spin qui vont stabiliser ces espèces fugaces pour les transformer, en fait, en une espèce stable et observable. Donc, vous avez toute une série de radicaux, comme ça, qu'on peut étudier. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui va être afférent aux métaux de transition. Donc, les métaux de transition, suivant leur degré d'oxydation, eh bien, ils peuvent posséder un ou plusieurs électrons non appariés. Et donc, placés dans un champ magnétique, eh bien, on aura une réponse et on pourra analyser ces éléments. Donc, typiquement, par exemple, si on prend un exemple, bon, bah, le fer à l'état 2, d'accord, c'est un D6. Donc, si on regarde, un fer 2 a plusieurs états de spin, mais la plupart de ces états de spin sont des états, ce qu'on appelle diamagnétiques, puisque tous les électrons sont appariés. On prend le même fer sous la forme 3, là aussi plusieurs états de spin, principalement deux états de spin, un état de spin où vous aurez 5 électrons non appariés, c'est ce qu'on appellera un état au spin, on parlera d'un état S pour le spin égale 5,5, ou alors vous avez aussi un état de spin de 1,5. Donc la RPE va permettre d'étudier tous ces complexes inorganiques et on verra d'avoir des informations sur leur géométrie et sur l'environnement en fait, du porteur d'électrons. Alors, là, je vais vous donner quelques petites infos pour comparer. C'est vrai que la RMN, on connaît bien, on connaît moins la RPE. Donc on va regarder les concepts physiques qui régissent ces deux techniques et leurs grandes différences. En RMN, vous intéressez au spin nucléaire. En RPE, vous intéressez au spin électronique. La grande différence que vous avez, elle est purement physique. C'est que la masse du proton, d'accord, est bien supérieure à la masse de l'électron. Vous avez à peu près 4 ordres. Ça va avoir une conséquence. Qu'en RPE, vous allez avoir des champs magnétiques qui sont très peu intenses. En RMN, vous allez avoir des champs magnétiques très intenses pour aligner les spins, jusqu'à 21, et maintenant on peut monter beaucoup plus haut, 21 Tesla. En RPE, vous allez avoir des petits champs qui sont de l'ordre de 0,3 Tesla. Par contre, on va avoir des fréquences beaucoup plus élevées. Si vous êtes à 21 Tesla en RMN pour le champ magnétique, eh bien la fréquence de résonance des protons sera de 900 MHz. Pour un électron, si vous êtes à 0,3 Tesla, eh bien, la fréquence de résonance sera de 10 GHz. Donc en fait, vous allez utiliser des fréquences très élevées. Ça va avoir deux conséquences. Une conséquence qui est relativement assez bénéfique et une conséquence qui est moins bénéfique. Si on fait un petit calcul en utilisant en fait cette formule, à partir de la fréquence de résonance, eh bien, on peut calculer ce qu'on appelle le rapport gyromagnétique de l'électron et le rapport gyromagnétique du proton. Lorsque l'on fait le rapport de ces rapports gyromagnétiques, eh bien, on voit qu'on a un facteur d'à peu près 600. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RPE va être 600 fois plus sensible que la RMN. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller détecter des traces au niveau d'espèces paramagnétiques qui possèdent des électrons donc non appariés. En revanche, autant la RMN, vous avez un spectre, je dirais en RMN des solutions, tout le monde fait ça, vous êtes quasiment instantanément capable d'analyser un spectre RMN parce que vous avez beaucoup d'informations qui vous sont données dans le spectre. En RPE, vous verrez, eh bien, on a très peu de résolution. Et ça, c'est un souci. Donc, très souvent, eh bien, pour interpréter les spectres que l'on obtiendra, eh bien, on est obligé de passer par le formalisme, d'accord, de la mécanique quantique. Alors, le principe de cette technique, un petit peu comme la RMN, en fait, c'est une technique qui va reposer sur l'interaction d'un champ magnétique externe, qu'on dira B0, et d'un moment magnétique permanent d'origine électronique. Donc, comme je vous l'ai dit, cette technique ne va concerner, et ça, il faut bien le garder à l'esprit, que les espèces paramagnétiques. Les radicaux organiques, les métaux de transition, les terres rares, tout ce qui possède des électrons non appariés. Alors, le premier terme de cette spectroscopie, c'est ce qu'on va appeler l'effet Zeeman. En fait, en première approximation, on va dire que l'électron, il peut se comporter comme un petit barreau aimanté. Lorsque l'on va le placer dans un champ magnétique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir deux populations. On va avoir une population qui va s'orienter parallèlement à ce champ magnétique et une population qui va s'orienter anti-parallèlement au champ magnétique. Alors, c'est tout bête. C'est tout simplement, eh bien, on aura, selon les populations de Boltzmann, on va avoir une disproportion entre ceux qui sont placés selon le champ magnétique et ceux antiparallèlement au champ magnétique. On aura une population de basse énergie et une population de haute énergie. On va faire interagir en fait notre micro-onde ici. Eh bien, le champ B1 créé par le micro-onde, ici à la fréquence qui sera à peu près 10 GHz, eh bien, lorsque l'on aura une condition de résonance, eh bien, on aura une transition d'énergie entre les deux sous-états de spin, plus 1,5 et moins 1,5 de l'électron. Ça, c'est le concept de base en fait, de cette spectroscopie. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver assez bizarre quand on fait de la RPE, quand vous regardez dans la littérature, eh bien, c'est la seule spectroscopie où vous n'observez pas une transition d'absorption. Toutes les spectroscopies, d'accord, généralement, vous observez une transition d'absorption. Ici, vous observez la première dérivée. Alors, en fait, cette première dérivée provient tout simplement d'un artefact expérimental, c'est-à-dire que le champ magnétique statique B0 n'est pas suffisant à lui seul pour lever en fait, cette dégénérescence, et on rajoute des bobines de modulation, d'accord, qui ont un champ magnétique un peu plus faible, et ces bobines de modulation qui vont être détectées synchronement avec le champ magnétique eh bien, vont avoir un effet dérivateur sur la coupe d'absorption. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? Eh bien, on va mesurer, voilà, ici vous avez votre énergie, donc là vous avez la fréquence de votre spectromètre, donc généralement 10 GHz. Eh bien, vous avez, ça c'est égal à G, bêta B0. B0, vous le connaissez, c'est votre champ magnétique, donc c'est la valeur à laquelle va se produire en fait la transition d'énergie. Bêta, c'est une constante, c'est le magnéton de bord. Donc l'observable ici que vous allez avoir, eh bien, c'est ce qu'on appelle le facteur de l'onde électronique, et qui pour un électron libre, si vous aviez un électron tout seul, eh bien, vaut 2,0023. Eh bien, ce facteur G, d'accord, il est gouverné par la structure électronique. Et tout écart à ce facteur G, eh bien, va vous renseigner non seulement sur la structure électronique de votre composé paramagnétique, mais aussi sur sa géométrie. Donc en gros, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer, hein ? Qu'est-ce qu'on va observer ? On devra observer une absorption, on observe ici une première dérivée. Donc lorsque l'on rentre en résonance, d'accord, lorsqu'on est à la valeur du facteur G, eh bien, il se produit en fait une absorption du signal électromagnétique. Donc l'équation fondamentale de la RPE, je dirais, au niveau de l'électron, eh bien voilà, elle est ici. C'est tout simplement, on va mesurer le facteur G qui dépend du champ magnétique qui est directement relié à votre fréquence. Alors il faut bien voir que la RPE, dans la plupart des laboratoires, lorsqu'on a une RPE, elle fonctionne à 10 GHz. La RPE, on sait la faire comme la RMN à différentes fréquences, ou donc différents champs. Ça peut aller de quelques centaines de mégahertz jusqu'à quelques centaines de gigahertz, voire térahertz sur des synchrotrons. Donc bien sûr, eh bien, si vous augmentez la fréquence, le champ magnétique que vous devez avoir, bien sûr, va augmenter. C'est-à-dire que, en gros, si vous travaillez non plus à 10 GHz, mais par exemple à 263 GHz, qui sont les appareils commerciaux actuellement les plus hauts en champ, eh bien votre champ ici sera de 9,4 Tesla. Alors, là, contrairement à la RMN, on va avoir quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire que votre électron, il possède un spin électronique. Mais cet électron, il n'est pas tout seul. D'accord ? S'il était tout seul, je dirais, ça ne serait pas forcément intéressant de faire de la RPE. Votre électron, il est environné de noyaux. Et comme l'électron, c'est quand même basé sur la mécanique quantique, et qu'on sait qu'un électron, ça se délocalise, donc grosso modo, ça va un petit peu se balader dans son voisinage, eh bien, il va transférer en fait une partie de son information, d'accord, sur les noyaux. Donc, qu'est-ce qui va se produire ? Si vous avez cette densité de spin portée par l'électron, d'accord, qui est bien sûr non nulle, c'est-à-dire que vous avez un état, on va dire, paramagnétique, eh bien, si vous avez à proximité un noyau qui porte un spin nucléaire, un proton par exemple, eh bien, vous allez avoir un couplage entre cet électron, d'accord, et le spin nucléaire. Donc ça veut dire quoi ? Ici, vous avez, d'accord, les deux transitions des sous-états de l'électron, plus 1,5, moins 1,5. Eh bien, chacun de ces sous-états, si par exemple ici on prenait, ça pourrait être le cas de la molécule H point, d'accord ? Eh bien, chaque sous-état électronique va être subdivisé en deux sous-états nucléaires. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que vous allez observer ? Vous avez deux transitions qui vont être autorisées, d'accord ? Pardon. Deux transitions qui vont être autorisées, et vous allez observer deux raies. Alors, pourquoi je vous ai dit, bah, tout simplement, c'est relié à la mécanique quantique. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur tout ça, c'est défini par un Hamiltonien, d'accord, qu'on appelle l'Hamiltonien hyper fin. Et on voit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une constante A. Cette constante A, c'est ce qu'on appellera la constante de couplage hyper fine. C'est une constante, en fait, qui est la somme de l'ensemble des contacts de Fermi. Ça veut dire que si vous avez plusieurs noyaux, eh bien, vous aurez une somme de l'ensemble de ces contacts de Fermi. Et on voit bien ici que c'est directement relié, d'accord, à la probabilité de présence, ça c'est la fonction d'onde de votre électron, c'est la probabilité de présence de votre électron à un endroit donné. Puis ça, ce sont toutes des constantes. Donc ça veut dire que directement, la nature du couplage, la force du couplage, qui est la dimension d'une énergie, dépendra de la fraction de densité de spin de votre électron sur un noyau. Donc, dans un spectre RPE, vous allez avoir à la fois les effets conjugués de l'interaction Zeeman et de l'interaction hyperfine. Donc, voilà, on prend le cas, ici, d'un électron, S égale 1,5, I égale 1,5 pour le spin nucléaire, ça pourrait être le cas de la molécule H point. Eh bien, vous allez observer deux transitions, et l'écart, ici, entre ces deux transitions, vous donne, d'accord, la valeur de la constante de couplage, et cette valeur a la dimension d'une énergie. Alors, ça, c'est aussi pour vous donner, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut observer comme noyau en couplage hyperfin. Tous les noyaux n'ont pas un spin nucléaire. Donc ici, proton abondant 100%, donc pas de problème, on va le voir. Deutérium, vous êtes 0,02%, vous ne le verrez jamais. Carbone 13, c'est comme pour la RMN. On est en limite, mais à 1%, on est capable de voir des interactions électron-carbone 13. Oxygène 16, pas de spin nucléaire, donc peu de chance. Donc l'oxygène 17, trop peu abondant. Donc on est généralement obligé d'enrichir. Idem pour le soufre 33. Alors, au niveau des métaux de transition, de nombreux métaux de transition pour certains degrés redox, eh bien, vont présenter en fait des signatures de couplage hyper fin, le vanadium, le manganèse, le nickel, le cuivre et le cobalt aussi. On aura aussi le molybdène et le tungstène. Donc il y a un ensemble de métaux de transition qui peuvent être intéressants et dont on verra par la suite l'utilité. Alors, ça, ce sont des techniques un peu nouvelles. Donc en gros, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait en RPE ? Je vous ai expliqué, vous avez un spin électronique, vous allez avoir une interaction du champ d'un petit champ B1 créé par un rayonnement micro-ondes qui va interagir avec un champ B0. Lorsque vous allez avoir un électron non apparié, en fait, vous balayez en champ magnétique et vous allez observer une transition d'énergie. Maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est directement aller exciter une transition à un champ magnétique donné, et là, transférer l'information par des séquences qu'on appelle d'écho de Hahn, tout le monde connaît ça en RMN, d'accord ? Donc on va faire un écho, qui consiste à faire une impulsion en pi sur 2, sur lequel on crée en fait une précession libre, et on va refocaliser tout ça par un pulse pi, et il s'ensuit un écho. Eh bien, on va transférer cette fois-ci, on va manipuler les spins, on va transférer l'information qui est portée par un électron, on va la transférer au noyau avoisinant. Et cette fois-ci, les observables, ce ne sera plus l'électron, mais directement les noyaux qui sont autour du centre paramagnétique. Donc je vous en montrerai quelques exemples. On sait aussi faire de l'imagerie, et ça je vous le présenterai, c'est notamment la fin de mon exposé où je vous montrerai l'utilisation dans les matériaux d'électrodes. Alors le principe de l'imagerie, eh bien, il est comme pour l'imagerie RMN. Lorsque vous allez faire de la RPE, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous balayez en champ magnétique et sans gradient, en fait, vous allez observer une transition d'énergie. Et donc, vous observez un spectre RPE. Maintenant, imaginez un matériau, d'accord, dans lequel vous avez des défauts, par exemple, des électrons célibataires. Si vous faites un spectre RPE, vous mesurez ça. Mais vous ne savez pas où sont les électrons. La seule chose que vous savez, c'est qu'il y en a. Vous pouvez intégrer cet ray, quantifier la quantité, mais en aucun cas dire où ils sont distribués dans le matériau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? Eh bien, on va, à notre champ magnétique principal, on va rajouter des bobines de gradient de champ qui vont conduire à un champ B', d'accord, qui sera un champ résultant. Donc le spectre que l'on mesurera, d'accord, il aura une forme de ray différente de celui-là, puisqu'il est soumis en fait à un gradient de champ additionnel, et il s'ensuivra dans la fonction signal du spectre, eh bien, une fonction de distribution du profil de concentration des électrons dans le matériau. Alors, pour faire ça, pour imager quelque chose, d'accord ? Vous avez deux solutions. Quand vous voulez encoder un signal dans l'espace, eh bien, soit vous allez faire tourner votre échantillon, d'accord, dans le spectromètre pour une valeur de gradient de champ donné, ou vous allez faire tourner vos bobines de gradient. Tourner un échantillon, ce n'est pas possible, et tourner les bobines de gradient, ce n'est pas possible non plus. Donc le seul moyen qu'on a de faire ça, eh bien, c'est d'utiliser une propriété, c'est qu'en fait, eh bien, vous allez faire passer dans vos bobines, là vous avez l'expression en fait, de vos gradients, si vous avez un système à trois dimensions, eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Pour générer un champ magnétique, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une bobine de cuivre, tout le monde connaît ça, on fait passer du courant et il s'ensuit un champ magnétique résultant. En fonction de l'intensité du courant, eh bien, vous faites varier l'intensité du champ magnétique. Si vous avez un nombre de spires constant et une section de cuivre constante, mais c'est généralement le cas dans vos bobines. Et bien donc, vous allez avoir une proportionnalité, en fait, d'accord, liée à l'intensité du courant. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces courants-là vont être directement reliés à un jeu de coordonnées polaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites varier l'intensité d'un courant, ça revient à faire varier, en fait, les angles que vous avez, d'accord, de votre champ magnétique par rapport à l'échantillon. Donc, on va faire comme ça tout un... On va pouvoir faire varier, en faisant varier l'intensité dans nos trois bobines de courant, si on a la trois dimensions, eh bien, on va générer un jeu de coordonnées polaires, donc avec deux angles principalement, un qui va varier de 0 à 90 degrés et un qui va varier de 0 à 360 degrés. Et comme sous gradient, en fait, votre signal que vous mesurez, c'est à la fois le signal qui subit le gradient convolué du signal qui n'a pas subi le gradient, eh bien, on va déconvoluer, en fait, ce signal, d'accord ? Et le fait de passer dans l'espace de Fourier, eh bien, on va avoir un jeu de coordonnées polaires, et le but, c'est de remonter aux coordonnées cartésiennes. Eh bien, on utilise tout bêtement un algorithme, alors c'est le plus simple, tout le monde connaît ça, c'est la transformée de Fourier en trois dimensions, si on est en trois dimensions, ou en deux dimensions, ou en une dimension, si on veut faire de l'imagerie qu'en une seule dimension. Eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir à partir de ça ? Tout simplement, on va remonter à une densité de spin, à une distribution de densité de spin dans le matériau. Ça veut dire, lorsque vous allez avoir un matériau qui contient des espèces paramagnétiques, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous visualisez tout simplement la densité de spin au sein du matériau. Donc là, je vous ai mis une petite photo pour vous montrer. Voilà, hein. Donc là, vous avez un électroaimant. La RPE, ça se fait avec un électroaimant. On n'a pas besoin de champ magnétique très intense. On a nos bobines de gradient ici additionnelles, donc vous voyez, ça ne bouge pas, c'est fixé. Là, vous avez votre cavité, ce sont des résonateurs qui ne bougent pas non plus, l'échantillon est placé au milieu, donc on va faire varier l'intensité dans nos bobines de courant. Alors, juste un petit exemple comme ça, sur des matériaux, là c'est pour, on va dire, voilà. On peut analyser de la matière ancienne, de la matière carbonée ancienne, donc des vieux chertes, en fait. Donc ce sont des roches très anciennes, donc vous voyez, qui peuvent aller de 3,5 milliards d'années à 1,9 milliard d'années, ou même des plus récentes. Alors, ce qu'on connaît bien, c'est le charbon. Hein. Le charbon, ça contient des défauts, d'accord ? Et lorsque vous faites de la RPE, bah voilà, vous avez des électrons qui se baladent, qui sont liés à des carbones, généralement, et vous observez une raie. Donc, pour reproduire ça, on a une petite idée. C'est vous utilisez de l'encre de tonnerre d'imprimante laser. Qu'est-ce qui va se passer? Vous déposez, en fait, alors c'est un mélange assez complexe, vous allez déposer, en fait, du carbone, mais vous savez que vous chauffez. Vous allez chauffer jusqu'à des températures assez hautes, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez casser des liaisons, d'accord? Et puis, vous allez donc produire des défauts et donc des radicaux. Donc, imaginez, vous prenez un tube de quartz, 4 mm, généralement on travaille avec ça. Vous écrivez quelque chose sur un petit morceau de papier avec votre imprimante laser. Comme la RPE, on a aussi voulu montrer que c'est une spectroscopie de bulk, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la surface. Bah, votre petit morceau de papier, vous le plongez au cœur de silice, qui, elle, ne contient pas de signal paramagnétique, il n'y a pas de défaut dans la silice, généralement. Et puis, bah, vous allez enregistrer votre spectre. Donc, si vous enregistrez un spectre, et bah, voilà, vous obtenez une raie. Et ça ne vous dit pas ce que vous avez écrit. Là, vous pouvez mesurer la concentration en défaut, mais ce n'est pas ce que vous avez écrit. Et bien, lorsque vous allez faire l'image, par exemple, ici, voilà, on avait écrit CNES, hein, et bien, vous allez ici, voilà, imager quelque chose que vous avez écrit. Donc là, on valide le fait qu'on sait imager des objets, d'accord, par résonance paramagnétique électronique. Et ce que vous voyez ici, et bien, c'est relié directement. Plus c'est rouge, bah, plus il y a de défauts. Hein, et puis moins c'est rouge, bah, moins il y a de défauts. Ça veut dire qu'en gros, ça, vous ne le voyez pas. Quand vous imprimez au laser, ça vous paraît parfaitement homogène, mais en fait, quand il se crée des défauts dans le tonnerre, eh bien, en fait, c'est tout à fait inhomogène. Alors, la RPE, moderne, on va dire, ça va servir à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on cherche à aller de plus en plus loin dans la recherche des informations. On va essayer d'avoir des informations structurales, c'est-à-dire de mieux comprendre les matériaux, Donc ça, généralement, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les techniques modernes par écho de spin. C'est toute la RPE impulsionnelle. Et puis, très récemment, c'est voir comment se distribuent ces matériaux. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y a des tonnes d'articles où les gens analysent des matériaux hein, à l'état solide et puis disent on est capable d'intégrer une raie, on sait le faire très facilement. On mesure notre échantillon, donc on a un volume, ou on le pèse, on a un poids, et puis on dit, ben voilà, j'ai intégré mon spectre, j'ai tant de spin par gramme ou par centimètre cube. Mais ça, vous ne savez absolument pas si c'est homogène, inhomogène, quelle est la fraction de votre échantillon qui contient, en fait, soit des défauts, soit des éléments paramagnétiques, vous ne savez pas. Vous avez arbitrairement pris un morceau d'échantillon, mesuré, et puis vous en avez déduit que votre échantillon contenait tant de spin par centimètre cube ou par gramme. Mais ça peut être supporté que par quelques pourcentages seulement du volume ou de la masse. Donc, l'imagerie permet aujourd'hui justement de pouvoir aller réaliser ces études de distribution spatiale, en fait, des défauts ou des éléments paramagnétiques. Alors, je vais vous prendre des exemples dans les deux cas. Je vais vous montrer comment on peut obtenir des informations structurales par RPE impulsionnelle. Et puis, donc là, on va plutôt travailler sur des matériaux où on a très peu d'informations, ou alors des matériaux où on a déjà un petit peu d'informations et on veut aller beaucoup plus loin. Et puis après, je vous parlerai d'imagerie. Alors, voilà, ici, un exemple. C'est un verre de vanadophosphate. Donc, lorsque vous faites un verre de vanadophosphate, vous intégrez du V2O5, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, le V2O5, c'est du UV5, donc c'est diamagnétique, mais il se produit du redox lorsque vous faites un verre, et donc vous avez la formation de vanadium 4+. Alors, lorsque vous faites ça, fabriquez ce verre, vous allez mesurer le spectre RPE. Alors déjà, vous voyez, c'est un peu compliqué, on a pas mal de raies et tout. Bon. Vous savez que vous avez du vanadium 4. Vanadium 4, on sait, spin nucléaire, 7,5. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez un couplage électron-noyau, vous vous attendez à 8 raies. Seulement, c'est que c'est pas si compliqué, c'est pas si facile que ça. Le facteur G que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai dit, le facteur G, il est isotrope, en gros. C'est-à-dire que je vous l'ai présenté comme un moyen-âge de l'ensemble des orientations dans l'espace. Seulement, c'est que ce facteur G n'est pas isotrope. D'accord ? Ça veut dire qu'il a une valeur en X, une valeur en Y et une valeur en Z. Et en fait, il faut diagonaliser en fait, pour avoir la valeur propre directement de votre facteur G. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, vos trois valeurs sont différentes, ça veut dire que vous allez avoir un système, d'accord, qui sera orthorhombique, par exemple, et donc vous allez avoir trois valeurs propres pour votre facteur G. Ça veut dire que vous aurez 8 raies dans chacune des directions. Et puis si vous avez un système axial, eh bien, vous allez avoir deux valeurs qui seront une valeur non dégénérée et une valeur doublement dégénérée. Donc vous aurez deux valeurs propres pour le facteur G. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Ici, si on comptait les raies, le maximum qu'on pourrait attendre pour du vanadium, c'est 24. Ici, on n'en a pas 24, on en a une quinzaine, parce qu'il y en a qui se recouvrent. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer les raies, on est capable d'aller identifier les facteurs G, je ne vais pas rentrer dans le détail, chacune des transitions nucléaires, et à partir de là, par exemple ici, eh bien, on peut dire, voilà, on a du vanadium 4, parce que c'est le seul qui a un état redox. Bon, le V3 peut aussi en avoir, mais plus du moins proche du V5, on n'a que le V4. Et ensuite, on a deux valeurs de facteur G, deux valeurs de couplage hyper fin. Eh bien, on est capable de remonter à la géométrie du vanadium, c'est-à-dire la sphère de ligandation. Ici, on a un système axial. Mais voilà, vous avez l'information que sur le vanadium. Et vous avez de la chance parce que le vanadium a un spin nucléaire. Si le vanadium n'avait pas de spin nucléaire, vous auriez une raie. Et donc, pas d'information. Maintenant, le phosphate s'organise comment là-dedans ? Ça, vous ne le savez pas. C'est-à-dire qu'en gros, sous chacune de vos raies, là, eh bien, la RPE est tellement peu résolutive que vous ne pouvez pas, vous n'avez aucun moyen de résoudre l'interaction hyperfine non résolue. Ça veut dire qu'en fait, comme vous avez des raies larges, le temps de relaxation T2 est très court, eh bien, les constantes de couplage, vous ne savez pas les résoudre. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous utilisez la RPE impulsionnelle et que maintenant vous allez exciter, par exemple, sélectivement une raie, ben, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez, sous cette raie qui contient des tas d'informations de couplage non résolues que vous ne voyez pas, vous allez transférer en fait l'information de votre électron vers tous les noyaux qui avoisinent. Et ben, c'est ce qu'on va obtenir ici sur ces cartes bidimensionnelles qui ressemblent à de la RMN. D'accord? Dans la diagonale, vous allez avoir toutes les fréquences de résonance de chacun des noyaux. Par exemple, le phosphore, à 10 GHz, pour un champ magnétique donné, ça résonne à 6 MHz. Donc ça veut dire que si vous avez une tâche à 6 MHz, eh bien, ça veut dire que vous avez du phosphore, ce qui est le cas ici. Et l'écart à la diagonale, si vous la mesurez, vous mesurez ça directement en MHz, eh bien, vous mesurez la constante de couplage, hyper fine. Ça veut dire que c'est la force d'interaction entre l'électron et le phosphore. Mais il faut bien voir, là, c'est l'électron du vanadium qui voit le spin nucléaire du vanadium. Là, vous avez manipulé pour que le spin électronique du vanadium aille voir le spin nucléaire du phosphore, qui est plus loin. Et donc, à partir de là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez les couplages faibles, les couplages forts. C'est-à-dire que lorsque vos tâches, comme ici, sont écartées de deux fois la fréquence du noyau considéré, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un couplage fort et vous pouvez directement ici mesurer la force du couplage. Donc, par exemple, ici, si on faisait une analyse de ce spectre-là, on est capable de voir ici trois phosphores, pardon, un fortement couplé et deux faiblement couplés. Et ce qu'on voit aussi, une petite tache ici, là, qui est vers 3,9 MHz, eh bien, ça, c'est du vanadium, non 4, c'est du vanadium 5, puisque lui, il n'est pas paramagnétique. D'accord ? C'est directement le vanadium 4 qui voit le vanadium 5. Et puis là, c'est un petit peu plus compliqué, je ne rentre pas du tout dans le détail, parce que je ne vous ai pas parlé de toutes les interactions, mais vous le savez, dès que le spin nucléaire n'est plus demi-entier, c'est-à-dire que lorsque ça ne vaut plus 1,5, lorsque vous avez un spin nucléaire entier ou supérieur à 1,5, vous avez l'effet quadrupolaire, d'accord ? Tout simplement parce que le noyau, sur ces noyaux-là, il y a une distribution de charge non sphérique et vous avez un moment quadrupolaire qui est produit. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, maintenant, on va voir que ça peut être un outil extrêmement puissant. Là, vous aviez de l'information, vous aviez un vanadium, vous aviez déjà une interaction hyper fine entre un électron et le vanadium. Maintenant, vous voulez travailler sur la matière carbonée. Alors, pendant des années, les gens ont travaillé sur de la matière carbonée. D'accord, ils voulaient essayer d'analyser les charbons, les choses comme ça, pour essayer de trouver des biosignatures. Quand vous mesurez un charbon, ou vous mesurez un caillou, par exemple, ici, qui a 1,8 milliard d'années, ou que vous mesurez une météorite, le carbone d'une météorite qui a 4,5 milliards d'années, vous mesurez à peu près toujours la même chose. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est dire, bah voilà, je vais mesurer le facteur G. Globalement, les gens se sont échinés à 4 ou 5 chiffres après la virgule, mais entre un charbon et une météorite, le facteur G ne varie pas tant que ça. Donc, alors ça, c'était utilisé aussi pour le pétrole, quoi, plein de choses. Mais voilà, on n'a aucune information. Maintenant, avec les techniques de RPE impulsionnelle, vous allez aller exciter cette raie. Et là, bah, si vous avez des couplages avec des noyaux plus loin du centre paramagnétique, c'est-à-dire des couplages relativement assez faibles, eh bien, vous allez pouvoir transférer l'information et vous allez pouvoir remonter comme ça, non seulement à la nature, mais à la structure. Et bien voilà, quand vous faites une carte bidimensionnelle, c'est-à-dire que là où vous n'aviez pas d'information, vous excitez cette raie, eh bien, vous êtes capable de mesurer ici. Alors là, c'est une météorite, la météorite d'Orgueil. Là, c'est un chert, d'accord, qui contient des cyanobactéries fossilisées. Eh bien, vous mesurez quoi? Vous voyez qu'il y a des protons, on peut s'y attendre, du carbone 13, on l'espérait. Mais on va voir ici, alors que je vous ai dit que le deutérium, on ne le voyait pas, on voit ici du deutérium. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans les météorites, il y a un enrichissement extraterrestre, d'accord, du deutérium. C'est-à-dire que les météorites ont été formées dans le nuage protosolaire, il y avait des positions labiles qui ont été deutérées. Donc ici, bah voilà, si on projette un petit peu tout ça, voilà, sous cette raie-là, où là, vous ne voyez rien en RPE continu, eh bien, vous avez l'ensemble de ces noyaux qui participent. Donc, bien sûr, le carbone 13, on est capable de mesurer ici le couplage, qui fait à peu près 4 MHz. Le silicium, 29, qui est pourtant abondant qu'à 4%. Et dans une roche, il y a toujours du silicium. Donc ici, ce deutérium, d'accord. Et puis, on voit aussi, parce que quand on travaille sur ces objets en cosmochimie, eh bien, on sait qu'il y a toujours des ratios N14 sur N15 qui sont différents. C'est ce qui permet de signer en fait la nature terrestre ou extraterrestre en fait d'un objet. On est capable de détecter l'azote 14 et l'azote 15. Donc là, c'est un exemple vraiment flagrant, c'est-à-dire que ces techniques-là ont permis en fait, eh bien, de pouvoir remonter en fait à des choses dont on n'avait aucune idée, tout simplement par RPE continu. Alors, ça a eu un gros impact, hein. C'est que ces deutériums avaient été mis en évidence par NanoSim, deutérium hotspot. La RPE, on a permis de dire que ces hotspots riches en deutérium, ils étaient portés par les radicaux. Ça veut dire qu'au moment de la maturation en fait, de ces météorites, au niveau du nuage protosolaire, eh bien, en fait, il y avait des défauts qui étaient créés, d'accord, des radicaux qui étaient créés au niveau de chaînes carbonées, et ces chaînes carbonées s'enrichissaient directement en deutérium. Alors, l'enrichissement, il n'est pas énorme, hein, il est de 1 à 2%, mais on est dans le seuil de détection de la RPE, comme on pourrait l'être de la RMN. Alors, vous allez me dire, on pourrait essayer de faire de la RMN du deutérium, mais non. C'est que là, on a des concentrations de matériaux qui sont extrêmement faibles. La RMN n'est pas assez sensible. Nous, on peut faire ça en RPE parce qu'on est à peu près 1000 fois plus sensible qu'en RMN. Donc voilà d'autres exemples sur toute cette matière carbonée. Hein, ici, ben, on peut voir là, cette météorite d'orgueil que je vous ai montrée. On peut voir des chertes, des cailloux de différents âges. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, c'est que plus ça vieillit, d'accord, et plus on perd la composante des protons. C'est-à-dire que si on allait jusqu'à 3,5 ou 3,6 milliards d'années qu'on prend un caillou sur Terre, eh bien, en fait, on n'a quasiment plus de protons parce qu'avec le métamorphisme, en fait, il y a une déshydrogénation qui se produit. Par contre, on observera toujours du carbone 13, d'accord, du silicium 29, et parfois aussi, on observe du phosphore. Donc ça, on peut le comparer, bien sûr, aussi à de la matière vieillie, d'accord, artificiellement, en laboratoire, pour pouvoir aller trouver des biosignatures. Donc ça, c'est, voilà, la RPE vous permet, en fait, d'aller tout simplement en analysant les fréquences nucléaires qui se trouvent autour du centre paramagnétique, d'aller trouver des signatures qui vous permettent, ici, dans ce cas-là, eh bien, de chercher des biosignatures, d'accord, en relation avec l'origine de la vie. Sur ces cailloux-là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi faire de l'imagerie. D'accord ? Quand vous récupérez un morceau de caillou, d'accord, vous savez qu'il y a du carbone, vous l'avez passé en RPE. Et vous avez dit, bah, vous avez vu une raie. Vous avez dit, bah, c'est super, on a une raie, donc on a des défauts. Mais où il se situe ? Et ça, c'est vraiment, voilà, vous voyez l'image du caillou qui est là ? Eh bien, en gros, tous les défauts, toute la matière carbonée, tous les radicaux carbonés se distribuent ici, dans le bas de l'échantillon. Ça veut dire que si on faisait juste le spectre, qu'on intégrait ce spectre en disant, voilà, j'ai combien, on sait à peu près combien on a, hein, à peu près 10 puissance 18 spin par gramme ou par centimètre cube, bah, on pourrait penser que c'est distribué complètement homogène. Eh bien non, en fait, ici, on a juste une distribution localisée en fait, de la matière. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, on compare toujours, hein, avec d'autres spectroscopies. Donc là, c'est de l'imagerie Raman, où on va pouvoir suivre la raie G et la raie D du carbone, et on voit qu'effectivement, avec ce qu'on mesure en RPE, il y a une colocalisation. Seule différence, le Raman, c'est une spectroscopie de surface, où en plus, vous avez le risque, avec l'échange d'énergie que vous allez apporter sur l'échantillon, parce que vous irradiez avec un laser, et bien que vous transformiez la matière en temps réel. La RPE, pas d'échange d'énergie, donc pas d'altération de l'échantillon, une spectroscopie de bulk, vous traversez complètement l'échantillon. Et puis, bah, sur ce même caillou, non seulement vous pouvez faire l'imagerie, donc vous avez repéré la partie intéressante, et bien derrière, vous pouvez aller faire de la RPE bidimensionnelle, cette fois-ci, spectroscopiquement, pour aller analyser les noyaux présents. Et ici, typiquement, vous voyez du proton, du phosphore, du carbone et du silicium. Donc on est capable, comme ça, de, à partir de ces différentes techniques, de pouvoir remonter complètement, non seulement à la distribution spatiale, mais aussi à la nature des noyaux environnants. Alors, ma dernière partie d'exposé, là c'est vraiment ce qu'on fait avec les travaux qu'on fait avec Jean-Marie, ces travaux qu'on démarrait il y a une dizaine d'années. Et là, vous allez voir vraiment ce qui se fait le plus en pointe aujourd'hui pour étudier ces matériaux de batterie. Alors, je pense que durant ces précédents cours, Jean-Marie vous a parlé en fait de ces composés au ruthénium comme matériaux d'électrode. D'accord ? Donc, première chose qu'on veut faire avant d'aller assez loin dans les techniques, eh bien, on va récupérer du matériau d'électrode qui a été donc le matériau de départ, le matériau qui a été chargé à 4 volts, par exemple, et 4,6 volts, et puis le matériau déchargé. Tout ça, ce n'est pas analysé que par RPE, c'est complémenté par d'autres techniques que sont l'XPS, dont vous aurez un exposé, je crois, la semaine prochaine. Donc, qui sont toutes des techniques complémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ici un élément, le ruthénium. Le ruthénium, il a plusieurs degrés d'oxydation. D'accord ? Il a des degrés d'oxydation où vous pouvez avoir des états paramagnétiques et vous avez des degrés d'oxydation où vous n'avez pas d'état paramagnétique. Alors, pas d'état paramagnétique, il faut faire attention. Du moins, RPE silencieux à une certaine fréquence. Prenez le ruthénium, on part de composé au ruthénium 4. Ruthénium 4, bon, si hop, on jongle assez vite comme ça pour la structure électronique, on a un état de spin qui peut être un état de spin S égale 2. S égale 2, c'est un état de spin à la fréquence à laquelle on travaille, lié à une interaction faite entre les électrons qui n'est pas observable à 10 GHz. Ça veut dire que lorsque vous allez mesurer un composé au ruthénium 4, eh bien, vous n'observez rien. Et là, c'est le matériau de départ en fait, du matériau d'électrode. On sait qu'on part d'un ruthénium 4, pas de signal RPE. Voilà. Ensuite, on va passer en charge. Et là, bah, qu'est-ce qui va se passer ? On peut voir que lorsque l'on charge à 4 volts, ici, on a un spectre relativement assez fin. On peut mesurer le facteur G. Parce qu'en fait, on le sait, la structure électronique, quoi, le facteur G est gouverné par la structure électronique. Donc tout écart à la valeur de l'électron libre, c'est-à-dire G égale 2 approximativement, va vous renseigner sur le nombre d'électrons dans les couches D. Si vous êtes supérieur à 2, eh bien vous avez plus que au moins 5 électrons dans les couches D. Si vous êtes inférieur à 2, vous avez moins de 5 électrons dans les couches D. Donc là, si on regarde, on est à température ambiante, on mesure, on est inférieur à 2. On est inférieur à 2, ça veut dire qu'on a un nombre inférieur à 5 d'électrons dans les couches D. Donc ici, eh bien, on est en présence d'un ruthénium 5. Par contre, si on regarde à 4,6 volts, on voit que le spectre change. On a quelque chose de beaucoup plus large. Et le facteur G, cette fois-ci, est au-dessus de 2. Donc là, on a très peu d'informations. Parce qu'on est à température ambiante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand vous avez des électrons, vos électrons, là, à température ambiante, ils vous disent, par exemple, pour le ruthénium, j'ai un caractère ruthénium 5, puisque le facteur G est inférieur à 2, mais vous n'avez pas d'informations sur la géométrie. Eh bien, généralement, ce qu'on fait en RPE, on va abaisser la température. On va travailler à très basse température, ce qui va permettre de localiser les électrons. Et là, si on prend les mêmes matériaux à très basse température, ici, à 4 degrés Kelvin, eh bien, on peut voir que bah, sur notre matériau de départ, on n'a toujours pas de signal, c'est tant mieux. Sur notre matériau qui a chargé à 4 volts, cette fois-ci, on n'a pas une seule raie. On voit 3 pics. En fait, ces trois pics correspondent à trois valeurs de facteur G, d'accord ? Donc trois valeurs propres, Gx, Gy, Gz. Eh bien ça veut dire qu'on a un système, d'accord ? On a la géométrie, ici, du ruthénium 5, d'accord ? Qui va être système tétraédrique. Et on est capable, précisément, ici, de mesurer le facteur G. Par contre, ce qui était intéressant, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on a ici, là ? On ne savait pas trop ce qu'on avait à température ambiante, c'est très large. Eh bien, lorsque, cette fois-ci, on abaisse la température, on voit qu'en fait, on a deux raies, d'accord ? Eh bien, ces deux raies nous disent qu'on a un système en géométrie axiale, d'accord ? Avec valeur de facteur G supérieure à 2, eh bien, ça, typiquement, ce sont des espèces superoxo. Hein, ici, vous avez un spectre de superoxyde de calcium. Voilà, on l'a identifié, c'est un superoxo. Donc, à partir de là, il faut bien voir, tout ça, c'est confirmé par de l'XPS. Donc, on a une bonne assurance de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller se dire, ben voilà, ça, c'est bien beau, on a des matériaux d'électrodes qui ont cyclé, mais on les analyse ex situ. C'est-à-dire que vous détruisez votre batterie, vous analysez le matériau à une valeur de charge. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'en RPE, on ne pourrait pas voir ça directement inopérando ? C'est-à-dire voir comment, dans le temps, les espèces changent lorsque l'on modifie, on change l'état de charge et de décharge. Alors, pour faire ça, ça, c'est des choses qui ont démarré il y a une vieille histoire, et il a fallu à peu près, je vais dire presque 10 ans pour arriver à ça. Il faut fabriquer une batterie, d'accord ? Mais une batterie qui n'ait aucun élément paramagnétique, parce que la RPE est très sensible. Donc, si vous commencez à avoir des matériaux paramagnétiques, bah, vous n'avez aucune chance de savoir si vous observez le signal de votre batterie, de votre support, ou le matériau que vous voulez analyser. Donc ici, il y a eu bah, voilà, tout un travail à faire sur trouver des matériaux qui ne possèdent aucun élément paramagnétique. Ensuite, il faut arriver à rentrer ça dans un résonateur. Mais un résonateur, ça a des lignes de champ, et les résonateurs, jusqu'à il y a très peu de temps, bah, en fait, ne supportaient pas les échantillons de grande taille. Ça, il faut bien voir que ça fait à peu près 6 à 7 mm de diamètre, et un résonateur, on peut rentrer des choses de 8 mm. Et jusqu'à maintenant, bah, lorsque vous rentriez des gros objets, les lignes de champ ne circulaient pas, donc en fait, bah, vous n'aviez pas d'interaction, vous ne créiez pas de champ B1, vous ne pouviez pas avoir de phénomène RPE. Là, on a fait designer un résonateur un petit peu spécial qui permet en fait, de rentrer des grands échantillons. On a un coefficient de qualité qui est plus faible. On perd en sensibilité, en résolution, mais à la limite, ce n'est pas très grave parce que vu qu'on a un échantillon de grande taille, on a plus de matériaux. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on peut le regagner de l'autre. Alors, quand on fait ça, bah voilà, la première chose qu'on peut faire, voilà, on peut enregistrer, d'accord, durant les cycles de charge et décharge, voilà, on va enregistrer ici, par exemple, sur notre composé, que vous avez vu précédemment, un spectre RPE, par exemple, à 3,6 volts. Là, qu'est-ce qu'on voit déjà ? C'est différent de l'ex situ. On voit deux choses. On voit une raie assez large, ça, pas de souci, on sait que c'est le ruthénium 5. Et puis ici, on voit une raie très fine, très très fine. Puis une raie qui n'est pas tout à fait symétrique. On dira que c'est une raie dysonienne. Eh bien, en fait, cette raie-là, c'est lié à des micro- ou nano-agrégats de lithium métallique qui se forment au niveau de la feuille de lithium dans la batterie. Donc ça, ben, pour le prouver, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a fabriqué une cellule symétrique, où ici, on a du lithium de chaque côté. On peut polariser cette cellule. Eh bien, au cours de la polarisation, on peut voir que voilà, le signal apparaît, ce signal très fin au niveau métallique. Alors, maintenant, on va voir comment on est capable de faire ça. Voilà. Ici, on a une batterie. Et puis, bah, on va partir en état de charge. Et on voit ici un signal RPE qu'on a déjà identifié, qui est notre signal de ruthénium 5. D'accord ? Transformation de la phase ruthénium 4 peroxyde en ruthénium 5 peroxyde. Et on voit que le signal grimpe. Donc ça, directement en état de charge. On va passer plus haut, puisqu'on a vu qu'à 4,6 volts, on avait la formation d'espèces superoxo. Eh bien, lorsque l'on va augmenter, on voit que le signal du ruthénium 5 va disparaître et on voit un changement ici, d'accord, de la position du spectre en facteur G. Et là, on a la formation, ici, d'espèces superoxo. Donc ça, directement monitoré au niveau de la batterie. Une fois qu'on a fait ça, bah, on peut faire la même chose, on peut faire cycler directement la batterie. On peut repartir en décharge, et là on va voir le signal des superoxo qui disparaît, et ici le signal du ruthénium 5 qui réapparaît puis qui redisparaît pour reformer la phase ruthénium 4. Alors, là, ça a même permis de montrer quelque chose qu'on n'aurait jamais vu en ex situ. Parce qu'en ex situ, vous prenez des points comme ça, et puis vous mesurez. Vous mesurez 4 volts, vous mesurez à... Mais vous allez mesurer en décharge, mais vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à un moment, là, vous n'avez que 3 spectres qui sont formalisés, il y en a eu des dizaines de spectres, vous avez toute une zone où vous n'observez plus rien. Si vous observiez plus rien, c'est que vous avez un état diamagnétique. Vous n'avez que des composés diamagnétiques. Et bien, à un moment, dans la phase de relaxation du matériau, vous repassez par des composés peroxo, ici, on n'a plus non plus de ruthénium 5, en fait, on a un composé mixte, et vous n'observez absolument plus rien. Et bien ça, vous n'auriez pas pu le voir en ex situ. Donc c'est pour ça qu'ici, eh bien, l'opérando vous permet de suivre directement, en temps réel, les espèces qui se forment. Et là, vous n'avez pas de souci, puisque en même temps que vous mesurez la RPE, vous suivez ici le cycle de batterie. C'est-à-dire qu'ici, à un moment, on n'observait plus rien, on s'est dit, il y a un souci, le spectro est une panne, ou quelque chose comme ça. Sauf qu'ici, la courbe, elle était bonne, parce que vous la suivez en temps réel. Donc vous attendez, et puis d'un coup, hop, vous voyez le signal qui réapparaît. Donc ça veut dire que vous êtes capable de voir des transformations qui se produisent au niveau redox et au niveau chimique. Donc ça, c'est la partie spectroscopie. Mais maintenant, comment ça se distribue dans le matériau? Est-ce qu'on peut faire de l'imagerie inopérando pour voir comment tout ça se distribue? Eh bien oui. Donc ici, vous avez l'image de votre batterie, d'accord? Sur cette petite zone-là qui fait à peu près 1 mm, eh bien, vous avez votre lithium métallique, votre séparateur et votre composé d'électrodes. D'accord? Eh bien, lorsque vous allez monter à 4 volts, vous avez vu, vous avez du ruthénium 5 qui se forme. Donc ici, vous voyez que vous avez ici, en zone, alors tout ce qui est violet, là, il n'y a rien. Donc vous voyez ici, vous avez votre séparateur. Alors votre séparateur, vous allez me dire, ouais, mais si on regarde la taille du séparateur, on devrait être beaucoup plus large. En fait, on s'est rendu compte que dans le séparateur, ce qu'on a analysé, tous les compartiments avant de faire l'imagerie en opérando, en fait, on a une diffusion de lithium métallique aussi dans les séparateurs. Mais on voit bien ici, il y a quand même une petite séparation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la formation à 4 volts, ce qu'on s'attend. On voit la distribution du ruthénium 5 et on voit que ce ruthénium 5, globalement, il est bien distribué. Par contre, vous voyez, il n'y a pas une très bonne résolution, tout simplement. Pourquoi? Parce que la résolution, elle dépend de la largeur de ray, d'accord, de votre spectre RPE. Plus la ray est large, moins vous aurez une bonne résolution. En revanche, on l'a vu, il y a du lithium métallique, une ray très très fine qui se produit. Et bien ici, ce que vous voyez, là, ici, ce sont des agrégats de lithium métallique. Alors ça, on a pu le faire, ben voilà, pour tous les états. Là, on peut monter un peu plus haut en charge. Donc on voit le ruthénium 5 qui disparaît en temps réel. Et puis ici, formation en fait de superoxo. Là, on monte à 4,6 volts. Et bien ici, vous avez tous les espèces superoxo. Et ici, toujours ce fameux lithium métallique qui est persistant. Alors, pareil, le peroxo, il a une ray plus fine. On a une résolution qui est meilleure. On voit mieux la distribution. Par contre, on voit qu'il y a une différence d'homogénéité par rapport au ruthénium 5. Et puis enfin, lorsque vous revenez à l'état de décharge complet, eh bien en fait, ici, vous n'avez plus que des espèces diamagnétiques, mis à part les nano-agrégats ou les micro-agrégats de lithium, qui restent persistants, mais vous n'avez plus rien de l'autre côté du séparateur. Donc on est capable, comme ça, de suivre en imagerie, directement, non seulement en spectroscopie, la nature des espèces, mais par imagerie, leur distribution spatiale. Alors, ça, c'était une grande première, ça n'avait jamais été fait. C'est la première fois qu'on voit vivre en fait une batterie en temps réel, aussi bien au niveau spectroscopique qu'au niveau imagerie. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut aller plus loin. Parce qu'on voit bien que la résolution, elle dépend de la largeur de ray. Et donc, on est embêté, parce qu'en RPE continu, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez un spectre et la largeur de ray, elle est définie. Par contre, vous avez vu qu'on peut manipuler les spins. Et donc, si on manipule les spins, on va manipuler la relaxation électronique. Donc, on peut tout à fait manipuler le T2 et on peut manipuler le T1. Donc, ça, c'est des manips qu'on a fait. Alors, c'est des manips qui ont été faites sur la batterie symétrique lithium-lithium, on voulait voir un petit peu ces phénomènes de dendrites. Est-ce que la RPE pourrait essayer de montrer en temps réel la formation de dendrites de lithium au niveau d'une batterie? Quand vous faites l'imagerie d'une batterie symétrique, vous voyez, vous avez voilà, un gros pâté, là, vous avez du lithium métallique, et puis c'est tout. Maintenant, si vous pondérez en T1 ou si vous pondérez en T2, le T1, la relaxation longitudinale, impose, vu qu'elle est la plus longue, son phénomène. C'est pour ça qu'en RPE continue, le T1 est toujours plus long de toute façon que le T2, donc le seul phénomène qui influe, c'est le T1. Par contre, le T2, si vous savez aller manipuler le temps de relaxation T2, eh bien vous allez sélectionner en fait certains types de spins électroniques, soit qui vont relaxer plus vite ou plus lentement. Ça, vous pouvez le faire. Eh bien, c'est ce qu'on a vu ici. Et ici, bah, lorsque l'on fait ça, eh bien, on voit bien ici qu'on a des spots ici, et vraisemblablement ça, eh bien, ce sont des formations en fait, de dendrites de lithium qu'on ne voit pas ici, on n'a pas la résolution ici pour pouvoir faire ça. Donc ça c'est en cours, et ça, c'est vraiment, à mon avis, l'avenir, c'est de combiner des techniques de RPE impulsionnelle et de combiner des techniques d'imagerie. Donc faire de l'imagerie, d'accord, où on va détecter un signal d'écho. Alors, perspective, bien sûr, dans ce genre de travaux. Il y a un développement méthodologique, bien sûr. Là, on utilise des résonateurs commerciaux, je veux dire, qui n'ont pas des B1 qui sont fantastiques. Donc, la résolution n'est pas forcément fantastique. On est obligé de travailler avec un minimum de 10 puissance 13 spins par gramme. Si on faisait des micro-résonateurs, eh ben, on pourrait descendre à des concentrations qui seraient 4 ou 5 ordres plus bas. On aurait des résolutions qui serait submicrométrique. Donc là, on pourrait commencer à aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau, on va dire, de quelques vingtaines, cinquantaines de nanomètres. On pourrait développer des microbatteries. Donc là, bien sûr, voir des phénomènes encore plus fins, des imageries encore mieux résolues. Et puis, bien sûr, bah, utiliser des séquences de techniques impulsionnelles et notamment, ça, c'est les choses qui se mettent en place, faire des techniques directement d'imagerie diffusionnelle, c'est-à-dire que là, en temps réel, pour des phénomènes rapides, on pourrait voir la diffusion en fait, des éléments dans le temps. Là, on reste quand même sur des aspects un peu plus statiques. Alors, en conclusion, si j'avais à résumer la RPE, c'est une technique très sensible par rapport à la RMN, c'est-à-dire qu'en gros, on est capable quand même de descendre à 10 puissance 12 spins par gramme, donc ça, c'est pas mal. Alors, ça peut avoir ça, des grands avantages, mais ça peut avoir des inconvénients. C'est-à-dire que quand vous travaillez en RPE, il faut travailler assez proprement. Il ne faut pas prendre la spatule rouillée pour pouvoir prélever les échantillons parce que vous allez avoir des oxydes de fer, du fer 3, et là, vous allez avoir des signaux qui vont être immenses. Ce n'est pas du tout votre matériau, c'est juste des impuretés. Donc, il faut vraiment travailler assez proprement en RPE. Par contre, pardon, la mise en œuvre est facile. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas de préparation très particulière. Vous prenez un bout de matériau, vous le mettez dans un tube, vous l'analysez directement. Il n'y a pas de préparation particulière de l'échantillon. On peut passer des liquides, des solides, des poudres, on peut passer des objets pâteux. Quoi. Il n'y a pas de problème. On peut le faire assez facilement. Avantage technique non invasive. C'est-à-dire que vous n'allez pas détruire, vous n'allez pas modifier votre échantillon. Lorsque vous allez faire de la spectroscopie Raman, pourtant je suis dans un laboratoire de spectroscopie Raman et infrarouge, donc en Raman, vous tapez avec un laser, vous transformez votre matériau, même si vous prenez des précautions. Je veux dire, à la surface, vous pouvez avoir des modifications. Les techniques de résonance magnétique n'altèrent pas les matériaux. Et surtout, la spectroscopie et l'imagerie, vous travaillez sur le bulk. C'est-à-dire que vous analysez entièrement l'échantillon. C'est-à-dire que la surface contribue très peu par rapport à la masse de l'échantillon. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la RPE, vous faire juste un petit overview de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de moderne en RPE, et je vous remercie pour votre attention.